France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée également sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Sommes-nous entrés cette semaine dans une nouvelle ère, celle du compromis politique? Les députés socialistes, en tout cas, ont changé de stratégie, décidé à jouer un rôle central désormais, un rôle responsable en négociant pied à pied avec le gouvernement, ce qui stabilise pour l'instant la situation politiquement, mais nos turbulences intérieures qui durent maintenant depuis des mois nous ont fait oublier ce qui se passe à l'extérieur de la France. La guerre est toujours à nos portes en Ukraine, guerre commerciale avec d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine, sans oublier les nouvelles guerres technologiques et informationnelles. Que fait l'Europe et que peut faire la France? On en parle avec notre invité ce dimanche, Raphaël Glucksmann, député européen et coprésident du mouvement Place Publique qu'il a cofondé. Il est ce midi dans Questions politiques en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour vous interviewer, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions et Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
On commence toujours l'émission avec vos images de la semaine à tous les trois. Vous allez nous raconter ce qui vous a marqué en particulier. Vous, Raphaël Glucksmann, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine?
Une lueur d'espoir dans un monde qui ressemble de plus en plus à des ténèbres, une lueur d'espoir. Et ma photo, c'est des enfants palestiniens qui déambulent parmi les ruines de Gaza. Mmh. Une lueur d'espoir avec le cessez-le-feu. On voit à quel point cette lueur est vacillante et fragile. Une lueur d'espoir pour les familles des otages et les otages eux-mêmes, ceux qui sont toujours vivants. L'espoir de la liberté, une lueur d'espoir pour ces civils palestiniens qui vivent sous les bombes, qui meurent sous les bombes depuis de si longs mois. Et une lueur d'espoir qui nous vient du Proche-Orient, une région qui nous a pas habitués à ça, et qui s'étend au Liban, avec l'élection enfin d'un président, Monsieur Aoun, et l'élection d'un premier ministre, Monsieur Nawaf Salam, qui est extrêmement loin de la corruption ambiante de la classe politique libanaise et de la mainmise du Hezbollah sur cette classe politique. Et donc ça, c'est un espoir pour le Liban, un pays qui nous est si cher, un espoir qu'un État souverain libanais s'affirme et que des réformes puissent être engagées. Donc voilà, moi j'ai voulu commencer cette émission où on va parler de sujets extrêmement inquiétants par le fragile espoir de la paix.
Un espoir qui va jusqu'à l'optimisme. Est-ce que vous iriez jusqu'à Joe Biden qui dit « voilà, c'est la fin de la guerre » ?
Non, je pense qu'il faut être résolument pessimiste quand on touche au Proche-Orient, quand on touche à cette guerre, mais que pour la première fois depuis le 7 octobre, on a un chemin qui peut se dessiner. Alors il est fragile, chaque étape va être un moment de bascule, mais oui, il peut y avoir la fin de cette guerre. Et à la fin, il faudra un chemin qui soit aussi un chemin vers la justice, c'est-à-dire vers la capacité des Palestiniens à avoir leur État.
François, peut créditer Donald Trump, lui-même le revendique, d'avoir pesé. C'est-à-dire simplement, il y a une coïncidence de date, ou alors lui s'est parlé à Netanyahou.
Écoutez, on va parler beaucoup de Donald Trump dans cette émission, j'en suis sûr, et vous verrez tout le mal que je pense de lui.
Mais là, c'est un succès de Donald Trump.
Mais là, ce qui est certain, c'est que Benjamin Netanyahou misait depuis le début, face aux pressions de l'administration Biden, sur le fait que bientôt Trump allait arriver, et que donc il n'avait pas obtempéré aux demandes américaines. Et ce qu'il a vu, c'est que, en fait, l'envoyé de Donald Trump est allé dans le même sens que l'administration Biden. Et donc, ça lui a coupé toute possibilité de jouer la montre. Et il était face à ses responsabilités. Donc oui, il y a eu un rôle de l'administration Trump.
Mais rôle ou succès? Non, succès, vous...
Un succès, succès, on verra. Enfin, je veux dire, là, franchement, le cessez-le-feu est toujours pas mis en place. Le Hamas n'a pas donné la liste des otages. Il y a des bombardements au moment où on se parle. Donc, je veux dire, franchement, parler de succès au Proche-Orient, il faut être très calme.
Est-ce que cette nouvelle ère au Proche-Orient, qui malgré tout se dessine, donc, se fera avec ou sans Benjamin Netanyahou?
Moi, je pense que Benjamin Netanyahou s'est complètement discrédité. Après, on ne peut pas, nous, décider qui sera le prochain dirigeant israélien. Mais ce qui est certain, c'est que Netanyahou s'est discrédité avant le 7 octobre, en misant sur le Hamas pour aboutir à l'absence d'État palestinien pendant très longtemps dans toute sa carrière politique et qu'ensuite, sa conduite de la guerre le discrédite. Donc, il y a une société israélienne qui s'oppose à Benjamin Netanyahou. Il y a des forces politiques qui s'opposent à Benjamin Netanyahou. Et c'est clair que la perspective de paix, elle passe par ces forces politiques-là et pas par Benjamin Netanyahou.
Une question encore, on a envie de vous dire, surtout vous, le député européen, où est l'Europe ?
Ben, je vais vous le dire, l'Europe, elle a été complètement absente, enfin pas complètement, mais très absente de la guerre, très peu audible, très divisée. Elle a raté tous les instants clés de ce conflit. Et donc, il faut qu'elle soit présente maintenant que la paix peut se construire. Et on a vu beaucoup les États arabes, on a vu beaucoup l'administration américaine, mais on a très, très peu vu l'Union européenne. Et c'est essentiel que nous, on soit là, maintenant qu'une brèche s'ouvre pour agir. Et pour, d'abord, l'aide humanitaire, mais pas seulement l'aide humanitaire, parce que finalement, l'Europe est toujours réduite à cela.
Voilà. À une enveloppe qu'elle a encore d'ailleurs donnée là, cette semaine, 120 millions d'euros.
Et c'est très bien, il faut le faire. Mais derrière, l'Europe, c'est un nain politique. Et donc, quand on voit qu'elle n'arrive même pas à suppléer à la potentielle absence américaine en Ukraine, on comprend bien qu'elle est très impuissante au Proche-Orient. Et il faut que l'Europe parle d'une voix. Mais ça, ça suppose vraiment un réveil des dirigeants européens. On n'y est pas du tout.
Et que fait la France ? Parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu non plus. Il y a eu un petit moment Macron et puis il a disparu. Et là,
la France, elle a eu un poids sur la question libanaise.
Ouais.
Mais elle a été très absente. Et surtout, je pense qu'il y a eu une forme de godille permanente qui ne rendait pas la parole française très audible sur la question de cette guerre. Et donc là, il faut qu'on soit là pour la paix. Il faut qu'on soit là pour la paix et pas simplement en donnant de l'aide humanitaire, mais en faisant pression pour qu'il y ait un chemin vers cette paix. Et ce chemin, je le répète, il y a des dirigeants européens qui ont déjà reconnu l'État palestinien, mais ce chemin, il passe par l'affirmation d'un État palestinien. Sans le Hamas, pas aux mains du Hamas, qui est une organisation terroriste, mais il y a besoin d'une perspective simplement de liberté et de justice pour le peuple palestinien.
Allez, autre image de la semaine, retour en France avec vous Françoise et la déclaration de politique générale de François Bayrou.
Alors je pense que vous l'avez tous regardé, donc je ne vais pas rentrer dans le fond, mais moi ce qui m'a étonné, c'est le style Bayrou. Ouais. Il y a eu un style Bayrou qui est fait de pas mal d'humour, de beaucoup de maladresse. Alors les maladresses, il va se perdre dans ses fiches dès le début. Mmh. Et puis c'est surtout quand il répond aux autres groupes. Alors là, il trouve pas l'interlocuteur. Il se repère dans ses fiches. Il confond les milliards, les millions. On se dit mon Dieu. Et en même temps, ça marche. Alors
comment
j'ai essayé d'analyser pourquoi ça marche. En fait, on le trouve plutôt authentique et sympathique. Et je pense qu'il y a un effet Bayrou par contraste avec ce qu'on a vécu avec les macronistes, c'est-à-dire la technostructure assez sûre d'elle-même, j'ai réponse à tout. Lui, il montrait enfin un homme politique qui était assez droit sur ses objectifs, un peu sinueux sur les détails, mais assez authentique. Et puis affirmant, en fait, affichant ses fragilités, et j'ai trouvé ça plutôt sympathique, avec aussi une dose d'humour qui fait que l'agressivité de l'hémicycle, qui a accompagné tous les premiers ministres, était là un peu désamorcée, notamment quand il a comparé, vous savez, les jeunes qui poussent pas comme des poireaux. Là, on a vu le groupe écologiste qui se dit, mais qu'est-ce qu'il en a contre les poireaux? Et c'était assez drôle parce que, voilà, donc les maladresses Bayrou, pour le moment, le servent. Alors peut-être qu'il faut pas que ça dure trop longtemps. Mais
il y a des maladresses au début qui l'ont passé à l'animé.
Il y a un personnage qui s'est affirmé.
Il a fait rire Laurent Wauquiez et il a failli faire rire Olivier Faure. Donc vous vous rendez compte quand même.
La canne floche. Dernière image, elle concerne encore François Bayrou. Avec vous, Nathalie, là c'est le conclave que
Alors,
vous avez
c'est pas, choisi. Pas de mariage avant la photo, c'est le fameux conclave, la caractéristique d'un conclave. Qui veut dire, je vais pas faire mon bas bleu conclavé, ça veut dire que c'est à clé, on les renferme. Là, c'est pas le cas. Et normalement, ils sont obligés de conclure. Juste pour dire que, je vais pas faire la Bayroumania, mais que l'idée de mettre tous les partenaires sociaux qui ont accepté de venir ensemble, parce que c'est quand même leur travail, leur responsabilité, ils connaissent les salariés, et d'essayer de travailler avec eux.
Voilà, pour parler des retraites. Hein, parce que
pour parler des retraites, bien sûr, mais vous savez, ils parlent des retraites, mais ils parlent aussi un peu d'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a un retour du dialogue social qui avait quand même manqué au début d'Emmanuel Macron, qui avait manqué aussi par la suite parce que certains ne voulaient pas venir, et que là, il y a une espèce d'ardente nécessité à le faire. Donc c'est quelque chose qui est plutôt remontant comme image, de voir tous ces gens entre eux. Et je voulais juste saluer particulièrement Marie-Lise Léon, qui est discrète, mais efficace et courageuse, et qui a pris plein de positions, y compris depuis mi-décembre, en disant « il faut avancer, il faut qu'on avance ». Alors, elle ne fait pas des claquettes, elle ne fait pas des déclarations tonitruantes, mais elle avance, et c'est bien d'avoir une femme un peu discrète. J'aime pas que les femmes soient discrètes, mais à la CFDT, voilà, c'est, ça fait extrêmement plaisir. Espérons que ça marche. En tout cas, c'est dans ce sens-là, à mon avis, que la méthode doit continuer.
Je suis totalement d'accord sur votre portrait de Marie-Lise Léon et sur son importance fondamentale dans les semaines qui viennent. Je pense que c'était aussi une de nos exigences principales. Le fait qu'on puisse renouer avec le dialogue social, qu'on fasse confiance aux partenaires sociaux, que finalement la brutalité avec laquelle Emmanuel Macron avait cassé ce dialogue pour imposer la réforme des retraites soit réparée et invalidée d'abord dans la méthode. Parce que quand on brutalise le dialogue social, en fait, on brutalise la démocratie française. Et il est extrêmement important dans une situation aussi bouillante qu'on puisse réhabiliter cette idée d'un dialogue entre les partenaires sociaux.
Et alors que LFI a laissé entendre que c'était quantité négligeable.
Ouais, mais ça
ce
nous oppose.
Ce qui est quand même quelque chose de très étrange.
Alors, on va faire le débat avant le débat, parce qu'on va évidemment en parler des nouvelles méthodes, la méthode Bayrou, l'ancienne méthode Macron, etc.
Nous sommes dans l'opposition et nous y resterons. Nous sommes dans l'opposition, mais nous avons aussi signifié notre ouverture au compromis. Depuis 10 jours, nous sommes entrés en négociation avec vous et vos ministres. Nous avons fait ce choix, non pour négocier une place, obtenir un ministère ou un avantage quelconque. Nous l'avons pris pour vous arracher des concessions qui n'auraient pas vu le jour sans cette discussion. Nous n'avons pas la négociation honteuse.
Voilà, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, jeudi après-midi à la tribune de l'Assemblée, où était débattue la première motion de censure contre le gouvernement Bayrou, motion rejetée grâce notamment aux 58 députés socialistes qui ne l'ont pas votée. Est-ce que l'on vient d'entrer, Raphaël Glucksmann, dans une nouvelle et inhabituelle culture du compromis en France ?
Bravo déjà. Je souscris à chaque mot qui a été prononcé à la tribune de l'Assemblée nationale et qu'on vient d'entendre. D'habitude, on suspecte toujours les hommes politiques, les femmes politiques aussi d'ailleurs, de négocier des postes, négocier des voitures de fonction, négocier des symboles, du prestige, de l'ego. Eh bien là, les négociations, elles portaient sur des mesures extrêmement concrètes et elles ne visaient pas à entrer au gouvernement et à obtenir des ministères. Donc c'était pas une négociation sur les postes, c'était une négociation sur ce qu'on pouvait arracher. Et je pense que oui, nous sommes entrés dans une nouvelle phase, qui n'est pas une phase d'alliance politique, qui n'est pas une phase non plus de contrat de non-censure sur toute la mandature, mais qui est une phase de discussion. Et moi, depuis le 7 juillet, depuis les résultats des élections législatives suivant la dissolution insensée de l'Assemblée nationale, eh bien, je dis cela. Il faut qu'on discute.
Mais pourquoi on a changé de stratégie tout à coup ? Pourquoi tout à coup, Olivier Faure ?
Parce qu'il y a eu un moment de prise de conscience suite à la censure de Monsieur Barnier, et aussi une opportunité. C'est-à-dire que si le gouvernement précédent avait fait le choix de faire une danse du ventre devant le Rassemblement national, il était clair qu'avec Monsieur Bayrou, eh bien la priorité, et Monsieur Lombard à l'économie, la priorité c'était de discuter, de dialoguer, de négocier avec la gauche. Et c'est pour ça, parce que nous sommes conscients de la difficulté du moment, de la crise politique majeure dans laquelle le gouvernement, le pays s'enfonce depuis le 9 juin, que nous sommes conscients aussi des menaces extérieures qui pèsent sur notre pays, que nous sommes conscients des attentes des Françaises et des Français qui veulent un gouvernement et qui veulent, si possible, arracher des victoires en termes de déremboursement des médicaments ou d'augmentation des dépenses dans l'hôpital public ou de postes dans l'éducation nationale ou d'ouverture d'un dialogue sur les retraites, eh bien que nous avons commencé ces discussions. Et c'était essentiel de les mener de bonne foi jusqu'au bout.
Françoise.
Alors, il y avait quand même un sujet extrêmement symbolique, qui est la réforme des retraites, où une partie de la gauche va nécessairement vous accuser d'avoir plié, parce qu'il n'y a pas eu cette suspension de la réforme qui était quand même comme une déchirure démocratique pour la gauche. Est-ce que vous pensez que ça valait la concession de dire « bon, on va renégocier sans suspendre, c'est suffisant ?»
Mais écoutez, revenez quelques semaines en arrière. Je sais qu'on est toujours focalisé sur le jour d'aujourd'hui, mais revenez quelques semaines en arrière. Cette blessure profonde que fut la réforme des retraites, à la fois sur le fond et sur la manière dont elle a été adoptée et imposée. Tout le monde pensait que c'était clos. On a réussi à rouvrir le dialogue, le débat, sans tabou, y compris sur l'âge pivot. Et donc, c'est déjà une victoire. Ensuite, quand vous avez les partenaires sociaux et les syndicats qui disent « mais nous, on va participer aux négociations, nous, on va participer aux discussions », quand vous avez Marie-Lise Léon qui vous dit « c'est une opportunité pour nous », mais alors, ça veut dire que c'est quand même une victoire. Et ensuite, nous, on n'a pas signé un contrat qui abolit la censure jusqu'à la fin. Si ce dialogue est fake, si il n'y a pas d'avancée, si finalement le gouvernement, par son attitude, donne un droit de veto au MEDEF sur chaque proposition syndicale, eh bien, il sera toujours temps d'utiliser l'arme de la censure. Mais on ne l'utilisera pas par posture, on ne l'utilisera pas a priori, on ne l'utilisera pas sur des mots, on l'utilisera sur des actes, en jugeant sur pièce, en ayant laissé sa chance au pays d'être gouverné. Et donc, moi, je pense que non, c'est une ouverture, certes limitée. Nous, on aurait aimé aller plus loin, mais ce qui est certain,
c'est
qu'il y aura
une vraie discussion et que c'est possible.
Et dire que c'est rien, c'est de la foutaise. Et c'est aussi se moquer des syndicats qui, eux, prennent la balle au bon et vont essayer de pousser pour une réforme profonde.
Nathalie.
Deux questions simples. Vous dites « on ». En quoi avez-vous pesé ? Beaucoup de gens disent « on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu ». Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que ça nuit gravement à vos relations avec le NFP ? Je ne parle pas des vôtres à vous qui ne sont pas terribles, mais celles du Parti Socialiste au sein du NFP.
Oui, c'est vrai, vous dites « nous ». On a l'impression que Place Publique, on fait partie du Parti Socialiste.
Est-ce que
c'est
dans la coulisse ?
À Place Publique, on a mené des discussions avec le ministre de l'économie Lombard, Éric Lombard.
Vous êtes venu ?
Et donc, on y a été, on a discuté, on a dit ce qu'on demandait.
Mais avec les autres du PS, François Hollande.
Et on était en permanence en lien avec nos partenaires socialistes. Moi, vous savez, j'ai parlé avec Olivier Faure et les autres dirigeants du Parti Socialiste.
Donc, vous n'êtes plus fâché avec Olivier Faure ?
Toute la semaine. Mais en fait, il n'y a rien de personnel dans ces histoires. Il y a une question de ligne politique. À partir du moment où Olivier Faure engage le Parti Socialiste dans la voie de la discussion, de la négociation, du rapport de force, et qu'il tient cette ligne et qu'il l'incarne, et d'ailleurs de manière plutôt habile, vous le concéderez, eh bien il n'y a aucun problème. Donc on était parfaitement synchrone sur toute cette période. Et donc oui, il faut assumer aujourd'hui ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est eh bien de montrer que nous privilégions l'intérêt général aux postures, et que nous ne voulons pas, mais moi je vais vous le dire, c'est extrêmement ancré. Nous ne voulons pas plonger le pays dans le chaos par ambition présidentielle. Nous ne pensons pas que virer Bayrou, ensuite ça va déclencher le fait que Emmanuel Macron va démissionner et que nous allons aller dans une présidentielle. Donc quand on ne pense pas ça, on assume jusqu'au bout.
Est-ce que c'est réconciliable avec LFI qui vous a traité, pas spécifiquement certains responsables, mais notamment sur les réseaux sociaux, de collabos, voire de capitulards, et qui ont considéré, en gros, que le premier, au début, ils allaient mettre un candidat systématiquement pour plomber ceux qui n'avaient pas censuré. Est-ce que ça peut s'arranger, le NFP, en tant qu'accord électoral ?
Nous ne devons absolument pas céder à ces menaces, à ces oukases, à ces diatribes.
Mais
je vais vous le dire.
Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous restez malgré tout ?
Dans notre pays, la gauche majoritaire, elle est démocrate, elle est pro-européenne, elle est écologiste, elle est humaniste, elle n'est pas sur les positions de Jean-Luc Mélenchon, et donc elle ne doit pas avoir peur. N'ayez pas peur, il ne peut pas nous détruire. Donc maintenant, on assume le rapport de force, on assume le fait d'avoir notre vision du débat public, notre vision des négociations politiques, notre
donc,
projet qu'il faut qu'on construise.
Donc il n'y a plus de NFP.
Et moi, je l'ai toujours dit, et là-dessus, c'est ma cohérence, et c'est le dis depuis le début, moi j'ai soutenu le nouveau Front Populaire, parce qu'il y avait une menace imminente de victoire de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, d'un gouvernement d'extrême droite dans notre pays. Et que face à une telle menace, je prendrai toujours mes responsabilités, même quand ça conduit à faire des choix difficiles. Mais j'ai toujours dit aussi, depuis le début, que ce n'était pas un mariage, parce que nos visions du monde sont trop différentes et notre rapport au débat public, comme on le voit maintenant, à ce qu'est la politique, est trop différent. Et donc, il y aura, de toute façon, on le sait, alors arrêtons de tirer des plans sur la comète, de toute façon, on le sait, Jean-Luc Mélenchon veut être candidat à la présidence de la République. Donc, arrêtons de faire semblant. Nous, on doit construire une offre politique qui rassemble le plus largement possible et qui soit clairement...
Et vous pouvez vous remettre ensemble, puisque vous parlez de mariage. Est-ce que c'est une liaison chaque fois qu'il y a des élections ?
Est-ce que c'est une liaison électorale ?
De notre côté, on doit proposer une autre offre politique que celle-là.
D'accord. Avec les écolos, les récupérer, les communistes.
Et proposer un projet clair pour le pays. Puisque une chose que je reconnais, moi, à Jean-Luc Mélenchon et aux Insoumis, c'est qu'ils ont travaillé une vision du monde. C'est qu'ils ont travaillé une cohérence politique. C'est pas la mienne. Et je la combats.
Mais il y en a une.
Donc nous, c'est ça qu'on doit faire maintenant. Et c'est pour ça que, dès le mois de septembre, je dis attention, ne devenons pas c'est extrêmement important hein, d'agir sur les soubresauts de la vie politique de semaine en semaine, de jour en jour maintenant et même d'heure en heure. Mais n'oublions pas qu'on doit d'abord construire une vision du monde et un projet qui puisse susciter l'enthousiasme dans le pays.
Juste, Françoise, pardonnez-moi, qu'on soit très clair, que les choses soient dites. Ça veut dire que le PS sort
du... Non, mais moi, je ne vais pas parler là au nom du Parti Socialiste pour une raison très simple, c'est qu'on a un mouvement qui s'appelle Place Publique.
D'accord.
Et que je n'engage pas la parole du Parti Socialiste quand je vous dis que nous, pour nous...
Vous voulez dire que vous n'en avez pas besoin, en fait, même pas électoralement, du Nouveau Front Populaire, du NFP.
Mais moi, ce que je pense, c'est que on doit construire notre offre politique sans la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon et l'appareil de Jean-Luc Mélenchon. Et on doit parler à ses électeurs, on doit parler aux électeurs insoumis, mais on ne doit pas lier notre destin aux désiderata et aux obsessions de Jean-Luc Mélenchon et, c'est pas seulement un homme, de son appareil. Pour une raison très simple, c'est qu'on ne veut pas la même chose là. Enfin, et ça se voit, ça se matérialise.
Voilà. Okay, donc en fait, vous actez qu'il y aura deux candidats à l'élection présidentielle, un candidat Mélenchon et un candidat de la gauche réformiste. Dans ce cadre-là, comment vous répondez à l'invitation de François Hollande qui dit il faut que Raphaël Glucksmann rejoigne les rangs du Parti Socialiste, de même que Cazeneuve ?
Mais on travaille...
Oui ou non ?
Alors, il dit plus que ça, parce qu'il est ce matin, effectivement, dans la presse, François Hollande, on parle du congrès du PS à ce moment-là, et François Hollande dit ce serait bien qu'il y ait une motion place publique au prochain congrès. Alors, vous êtes candidat ou pas ?
Nous, on a un parti qui s'appelle Place Publique. Mmh. On est lancé là, dans un processus qui, à mon avis, est absolument vital. Parce que si on veut créer une offre politique, il faut avoir un projet. Mmh. D'accord ? Un processus absolument vital qui implique près de 2000 personnes
vous
qui travaillent sur un projet. Notre objectif, c'est d'être prêt en juin. Et donc, on va continuer à développer Place Publique. Vous savez, on est passé de 1000 adhérents payants à 11 000 en un an.
Alors, prêt en juin, pourquoi ?
Mais prêt en juin pour proposer ce projet. Mais parce qu'en fait, je vais vous dire une chose très simple, très simple. C'est que moi, depuis la dissolution décidée par Emmanuel Macron, j'ai compris...
Prêt à tout.
J'ai compris qu'on n'avait plus le droit de ne pas être prêt à tout. Parce qu'en fait, cette dissolution complètement irrationnelle montre que n'importe quelle décision peut être prise qui considère le jeu politique comme un jeu de quilles où on lance une boule de bowling et que quand on n'est pas content, on casse le jouet. Malheureusement, le jouet, c'est le pays et sa scène politique. Et donc, il faut être prêt à tout parce qu'en fait, vous avez le droit d'être surpris par une décision irrationnelle une fois et donc d'être acculé à faire des choix qui sont difficiles. Mais si vous êtes à chaque fois surpris, en fait, c'est un destin que vous choisissez, celui d'être naïf et surpris. Donc nous, on ne sera plus surpris, quelle que soit la décision. Moi, je suis contre qu'il y ait une dissolution. Moi, je suis contre qu'on brutalise les institutions. Je suis contre une présidentielle anticipée. Moi, je suis pour le respect des cycles électoraux et des institutions de la République.
Mais
le problème, c'est
que
la première brutalisation, elle a été faite par Emmanuel Macron. Et qu'en fait, on a la version synchrone, opposée, qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui dit, eh bien, il faut une deuxième brutalisation maintenant, avec une présidentielle anticipée. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de brutalisation et qu'il y a un calendrier qui sera respecté et qu'on puisse avoir un minimum de stabilité.
Alors, dans le calendrier,
Si jamais des dirigeants qui ne sont pas toujours ultra rationnels décident qu'on rebrutalise les institutions, nous serons prêts.
Et dans le calendrier avant, il y a le congrès du PS, pardonnez-moi de dire.
Alors je ne sais pas quand il aura lieu.
Non, alors justement, on ne le sait pas. On entend parler quand même de la fin du printemps, mai, juin. Olivier Faure, vu tout ce qui vient de se passer, il est la bonne personne. Il doit rester à la tête du PS ou
nous,
pas ?
Nous, on ne va pas, encore une fois, on ne va pas s'ingérer dans les
vous
affaires du Parti.
Discuter en permanence avec lui ?
Mais bien sûr qu'on discute. Mais je discute avec
Olivier Faure,
je discute avec Nicolas Mayer-Rossignol. Moi, je discute avec Carole Delga, je discute avec tout le monde au Parti Socialiste. Et je vais vous dire une chose. À la fin, vous savez ce qui se passera ? Eh bien, on aura une offre politique commune avec le Parti Socialiste, avec les socialistes. Et cette offre politique commune, elle sera différente de celle que propose Jean-Luc Mélenchon. Et il y aura une confrontation des idées, des projets, des manières de faire, des stratégies politiques. Et ce sera démocratiquement sain. Ce sera sain. Et d'ailleurs, dans ce qu'a promis le Premier ministre, Monsieur François Bayrou, il y a une cause qu'il a portée depuis longtemps, tout comme nous, et ça, nous avons ça en partage, qui est la proportionnelle.
La soutenez à fond.
Ah mais non seulement la soutenez à fond,
mais
c'est une urgence. C'est une urgence. On doit changer la culture de la classe politique. Ça fait des mois là qu'on perd du temps parce qu'en fait, on n'est pas habitué à discuter, à élaborer des compromis, que on n'est pas capable de faire ce que font nos voisins. Tous nos voisins, en fait.
Donc quand on n'y arrive pas, on se lance dans la proportionnelle qui nous forcera encore plus à le faire.
Eh bien oui, parce qu'en fait, la proportionnelle, ce que ça permet de faire, au-delà d'avoir une représentation plus démocratique du paysage politique français, de l'opinion des citoyennes et des citoyens, ce que ça permet de faire, c'est que chaque famille politique vient devant les Françaises et les Français en disant une chose très simple. Non pas j'ai réussi un accord électoral, mais voilà qui je suis et voilà ce que je veux pour le pays. Et ensuite, on vote. On vote en accord avec soi-même, sans se diviser intérieurement. C'est ce qu'on a réussi à susciter comme enthousiasme aux Européennes. Et une fois qu'on a ça, eh bien on est dans l'obligation d'établir des compromis, des rapports de force en fonction de ce que pensent réellement les Français. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. Et c'est quelque chose qui manque dans notre pays.
Alors, justement, Nathalie, avec qui vous envisagez que cette démocratie puisse s'exercer, puisque vous êtes favorable à des compromis? Alors, le plus dur, c'est probablement pas Place Publique et le PS, et même s'il y a des courants dans le PS avec lesquels vous n'êtes pas forcément le plus, comment dire, en bonne relation, c'est... Vous avez été déçu par les écolos? Vous pensez qu'il y a encore quelque chose à prendre de ce côté-là? Est-ce que du côté du PC, est-ce que finalement il n'y a pas eu une homogénéité des deux vis-à-vis avec LFI? Est-ce que vous n'êtes pas un peu seul? Pas vous spécifiquement, mais les socialistes.
Moi, je ne pense pas. Regardez l'attitude sur la reprise des négociations. Les insoumis disent depuis le début, nous ne voulons pas de négociations. Ouais. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est juste rester dans notre coin, avoir la posture révolutionnaire et dire du balai. Ok. Les socialistes négocient, les Verts négocient et les communistes négocient. Ensuite, je pense que nous avons une responsabilité, c'est de montrer que le chemin qu'on trace fonctionne et que finalement, ces forces politiques qui hésitent ont tout intérêt à venir avec nous.
Parce que vous savez, à venir avec nous. Parce qu'il y a les Verts Jadot, c'est pas la même chose que les Verts Tondelier.
Oui.
Alors, le sénateur de Paris et la patronne des écologistes.
Vous n'apprenez rien, mais moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous n'apprenez rien, mais ce que je vois, c'est qu'en fait, si on montre que notre chemin fonctionne, eh bien, les gens viendront. Vous savez, je pense que personne n'est heureux dans un système où vous avez un dirigeant comme Jean-Luc Mélenchon qui passe son temps à insulter et menacer ses partenaires. Donc, si on montre qu'il y a une autre voie, une autre manière de faire, qui peut mieux fonctionner et qui peut surtout permettre, en fait, à la gauche de prendre le pouvoir dans ce pays. C'est-à-dire qu'à la fin, pourquoi on fait de la politique? Mais chaque dirigeant de gauche doit se poser la question. Hein. Pourquoi on fait de la politique? Pourquoi on est entré en politique? Est-ce que c'est pour être premier à gauche ou pour satisfaire sa base militante et politique? Ou est-ce que c'est pour prendre le pouvoir et mettre en place le projet et les idées qu'on porte? Et si le but est de réellement transformer la société, réellement faire la transformation écologique, réellement rétablir de la justice fiscale et sociale dans ce pays, si c'est réellement de refonder la démocratie, si c'est de la protéger contre les empires autoritaires et contre les oligarques populistes qui les menacent, alors on doit se mettre en condition d'exercer les plus hautes responsabilités. On doit parler au-delà de notre propre cercle. On doit parler à l'ensemble des Françaises et des Français. Et le but, c'est pas d'être premier à gauche. Oui. Ça, on s'en fout, en fait. Le but, c'est d'avoir 50% des gens qui, à la fin, vous choisissent et vous font confiance. Donc, ça doit être une ouverture d'esprit différente. Moi,
Mais Raphaël Loosemann, vous oubliez un peu vite quand même le budget qui va arriver maintenant très prochainement.
J'oublie rien du tout. Hein.
Si les socialistes votent ce budget, ils changent aussi de camp. C'est-à-dire que tout à coup, ils ne font plus partie de l'opposition.
Non,
C'est comme ça qu'a commencé Olivier Faure. Nous faisons toujours partie de l'opposition.
Nous faisons partie de l'opposition. Est-ce que vous avez vu
le PS vote le budget,
l'un d'entre nous au gouvernement? Est-ce que vous avez vu l'un d'entre nous faire l'apologie de la politique qui allait être portée par ce gouvernement? Non, nous sommes dans l'opposition, mais simplement nous sommes dans une opposition qui ne se comporte pas comme Néron. Voilà, on ne prend pas plaisir à voir la République brûler. Alors,
donc voter un budget, c'est pas se rallier à une majorité.
Donc on verra sur le budget si ce qui nous a été promis déjà se matérialise, si les avancées sont bien concrètes, si le dialogue qui a été initié n'est pas une farce. Et donc là, on prendra notre décision. Mais on ne s'est pas accordé pour avoir une non-censure éternelle. On a juste dit que nous étions des acteurs rationnels, conscients de la gravité du moment. Et que du coup, si jamais le budget est une farce et que rien de ce qui nous a été promis n'est acté, eh bien, nous censurons.
Alors, est-ce que ce qui vous a été promis suffit ou faut-il encore obtenir d'autres choses? François Hollande, ce matin, parlait de gestes en faveur de l'écologie et de l'équité. Est-ce que vous avez encore des mesures à défendre pour ne pas voter la censure?
Mais il y a une chose qui a été quand même, on peut convenir de ça, qui a été complètement absente du discours de politique générale, en réalité, c'est la transformation écologique.
Il y a un peu de dotation pour le fonds vert?
Non, mais soyons sérieux. C'est sans doute le défi le plus titanesque auquel nous faisons face, et il n'a été traité que pendant 37 secondes dans le discours de politique générale, et tout le discours sur l'écologie, c'était en fait comment on abaisse les normes. Donc oui, Il y a des progrès immenses à faire là-dessus. Nous, on a des pistes, mais simplement une chose. Nous, on jugera sur pièce. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on sait très bien que François Bayrou, il ne va pas porter notre projet. Hein. Et tout le monde le savait avant le début des discussions.
Mais vous essayez de pousser au maximum.
Au maximum, et ensuite on jugera. Mais on sait que ce n'est pas notre gouvernement, on sait que ce n'est pas notre projet. Enfin, je veux dire, on sait que ça ne sera pas la grande transformation écologique et sociale qu'on désire et qu'on porte. On sait que même sur la fiscalité, s'il y a des avancées, par exemple, avec cet embryon de taxe sur les plus hauts patrimoines, eh bien, on met un pied dans la porte. C'est parce que nous, on propose. Nous, on aimerait aller plus loin, mais c'est déjà un pied dans la porte. Et donc, ce qu'on fera, c'est juger s'il y a le minimum d'avancées possibles pour ne pas censurer. Mais s'il n'y a pas, si finalement on se dit, bah, ils ont voté là, et donc finalement, on n'a plus besoin d'être fidèle à ce qu'on leur a promis, eh bien, ça sera la censure. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on jugera en ayant conscience tout le temps que faire tomber un gouvernement, ce n'est pas un jeu. Et que derrière, surtout, quelle est l'alternative qu'on propose ? C'est ça qu'on doit aussi dire. Quand on est critiqué sur notre gauche en disant « Mais pourquoi vous avez fait ça ? Vous avez sauvé le gouvernement Bayrou. » Mais attendez, il y a deux reproches. Vous avez sauvé le gouvernement Bayrou. Et c'est juste « Ok, on le fait tomber. Et quoi derrière ? Qu'est-ce qu'on fait derrière ?»
Alors,
Et deuxième chose, autre critique qui nous est adressée, qui est particulièrement cynique, qui est de dire « Mais de toute façon, le gouvernement Bayrou n'allait pas tomber puisque le RN n'allait pas voter la censure. » Non mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on vote en fonction du vote de Marine Le Pen, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui lui redonnons les clés. Mais quelle hypocrisie de dire ça. Quand on vote, on doit toujours penser
en tout cas,
que l'avenir dépend de son vote, donc on vote en conscience.
En tout cas, Jean-Luc Mélenchon est moins sévère que vous, vous êtes plus sévère que lui, parce que là, il vient de dire que le PS n'est plus un partenaire, mais toujours un allié.
Un allié de circonstance. Vous m'expliquerez le sens de cette phrase. Plus un partenaire, mais
encore un allié de circonstance. Il sera possible que...
Les élections.
Non, mais
les accords électoraux, il y a une possibilité d'accord.
Un allié de circonstance, c'est quoi ? Mais c'est-à-dire que peut-être nos votes vont se rejoindre quand on essaiera de
voter. Alors que vous
dites
qu'il y aura forcément deux candidats, clairement, en 2027.
Jean-Luc Mélenchon explique qu'il envoie des lettres à tous les maires pour dire qu'il va être candidat aux élections présidentielles.
Il est moins dur que vous.
Mais non, il n'est pas moins dur que moi. Il veut être candidat aux élections présidentielles. Enfin, tout le monde le sait. C'est quand même. J'adore le jeu de. On fait semblant qu'on ne sait pas, mais en réalité, on sait. Quand on envoie des lettres au maire pour dire je veux, enfin, parrainer Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire qu'il veut être candidat. À partir du moment où il est candidat, on doit juste se poser une question simple. Est-ce que nous, on est à l'aise avec la possibilité de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je vous réponds tout cash, tout net, tout direct. Jamais je ne soutiendrai la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République. Donc voilà.
Voilà, vous êtes plus clair.
Basé.
Le député européen Raphaël Glucksmann est notre invité jusqu'à 13h dans Questions politiques. Comment va l'Europe ? On en a un petit peu parlé, Raphaël Glucksmann, mais on voit peu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Le commissaire français, Stéphane Séjourné, semble être aux abonnés absents, on le voit nulle part. Et vous n'apparaissez que de temps en temps. Que fait l'Europe en ce moment ?
Alors déjà, moi, je passe ma vie à bosser au Parlement européen, et c'est pour ça qu'on me reproche d'ailleurs de ne pas commenter assez la vie politique française. Mais l'Europe va mal. Et là, on a des offensives quotidienne contre les démocraties européennes, celle de Musk et de Trump. On a la guerre de Vladimir Poutine et sa croisade contre nos démocraties, elle aussi. On a les menaces sur nos productions venues de la Chine. Et face à cela, eh bien, on a une Europe extrêmement divisée. Mais je vais vous faire un tableau qui est flippant, mais qui est en dessous de la réalité encore.
Alors allons-y. Flippant.
On a une commission faible. La personne qui était le rempart face à Elon Musk, face
Thierry
à
Breton.
Thierry Breton, il a été écarté comme un malpropre et on
et
en
c'est
souffre.
C'est la faute à qui ça ? C'est Macron qui l'a d'abord, pas défendu, c'est Van der Leyen qui
d'abord Van der Leyen qui a demandé sa tête, mais ensuite, mais d'où on accepte ? Enfin, je veux dire, d'où le président de la France accepte ce deal ? C'est impossible. Donc là, on a une commission qui avait une personne qui avait été l'architecte des instruments qu'on a pour se défendre aujourd'hui et on avait travaillé avec lui au Parlement européen pendant des mois et des mois et le DSA. Ce qui permet à l'Europe de défendre l'espace numérique européen face à Elon Musk ou face à TikTok, eh bien, c'était lui l'architecte. Il allait mettre en place ce qu'il avait conçu avec nous.
Oui, puis il
a été écarté. Donc on a une commission faible. On a une parole de la France qui a perdu tout crédit à l'échelle européenne.
Après
depuis le 9 juin, depuis la dissolution. Vraiment. C'est-à-dire que les gens n'ont pas compris en Europe.
C'est la dissolution ou c'est la personnalité de Stéphane Séjourné ?
Non, c'est la dissolution. C'est depuis le 9 juin, parce que la France pourrait peser dans ce cas-là au Conseil.
Bon, mais après, il y a d'autres pays.
Donc on a l'Allemagne qui est en pleine élection. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est le pire moment pour nous. Et dans deux jours, on a un président qui s'appelle Donald Trump.
Demain.
Demain, mais dans deux jours, il sera installé. Et on a Elon Musk qui va être le numéro 2 de Fed de l'administration américaine. Donc, des gens qui se sont promis, mais vraiment promis, qu'il fallait, après « Make America Great Again », Elon Musk le dit tous les jours, « Make Europe Great Again », ce qui veut dire la même bataille culturelle, la même bataille politique qu'aux États-Unis, mais chez nous. Comme si on était le 51e État des États-Unis.
Bon, mais que fait l'Europe?
Et donc,
que
ce qu'il faut faire, là, c'est appliquer nos lois. Vous savez, en Europe, on est des précurseurs pour produire des lois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très bien d'être député européen. On produit des lois qui sont super.
Donc, c'est appliquer
et donc, là,
le Digital
on a
Service
été précurseurs,
Act.
On a été précurseurs sur la loi de protection de notre espace numérique.
Ouais.
Il y a des enquêtes qui ont été lancées contre X et contre TikTok. Eh bien, il faut les rendre publiques et sanctionner les dérives constatées. Et tout le monde le sait à Bruxelles que les lois européennes sont violées.
À Bruxelles, là, on a recommencé une enquête qui avait déjà été menée depuis décembre 2023.
Décembre 2023.
Donc on tourne en rond.
Et depuis juillet 2024, je sais quels sont les résultats.
Qui est-ce qui joue au...
Mais c'est la peur qui nous tenaille.
Mais la peur, est-ce que c'est la peur
de se fâcher avec l'administration américaine? Mais moi, ce que je dis, et ce qu'on va dire dans la prochaine session plénière, la semaine prochaine, à la Commission européenne, parce qu'au Parlement, il y a une large majorité sur cette position, c'est arrêter d'avoir peur d'appliquer nos propres lois. Ces gens, Musk, Trump, ne respectent que
alors, qui vous aide, on va
les
prendre
gens qui sont forts.
Pas qui vous plante, qui vous aide. C'est en gros, si vous êtes tout seul à pousser des cris pour qu'il se passe un truc...
Non, mais on va construire une majorité au Parlement européen pour obliger la Commission à appliquer nos règles.
Il y a quand même des gens dedans qui sont un
peu... Vous savez, on a voté le Digital Services Act à une écrasante majorité. C'est sans doute l'une des lois qui a été votée avec le plus de consensus politique. La droite, la gauche, le centre, les verts, tout le monde. D'accord ? Et même l'extrême droite s'est abstenue, hein, qui pourtant, d'habitude, refuse tout pouvoir pour l'Union européenne. Et là, on fait quoi? Une loi qui a été si bien adoptée, on la passe sous le bus.
Oui.
Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à la Commission, c'est très simple, soit vous appliquez les lois européennes, et donc ça va conduire à des sanctions sur les plateformes qui ne respectent pas les lois européennes, qui trichent sur les algorithmes pour promouvoir des contenus qui déstabilisent nos démocraties. C'est ça ce qu'a fait TikTok en Roumanie, et c'est ça ce que fait
X. Donc, soit vous votez, soit
vous appliquez, soit quoi?
Bah, soit on sanctionne cette Commission. C'est-à-dire que...
On la sanctionne comment? Enfin, je veux dire, avec quoi? Avec quelle
règle? Attendez. On est quand même dans un système, l'Europe, qui est démocratique. Donc on vient d'installer une commission. On peut tout à fait engager un rapport de force sur les questions du budget, sur toutes les questions où la commission a besoin de nous, pour faire en sorte que nos lois soient appliquées.
Non mais alors là, il faut y aller, parce que là, on a la commission qui a dit, on recommence une enquête qui a déjà été faite sur Elon Musk.
Eh bien, on a rendez-vous avec la commission la semaine prochaine à Strasbourg. Ça tombe bien, donc là, on va pouvoir mettre la pression,
d'accord,
augmenter la pression, demander des résultats et dire une chose extrêmement simple. C'est qu'en fait, c'est pas d'insulter Musk qu'on demande, nous. C'est
respecter
les lois qu'on a votées. Moi, j'en peux plus que nos lois ne soient pas respectées. C'est un manque de sérieux. On manque de moyens pour les appliquer, les lois européennes. Et c'est surtout un manque de courage. Parce que oui, quand vous faites respecter vos lois, eh ben, ça passe par un moment de tension. Et ce qui fait flipper tout le monde, c'est le fait qu'une nouvelle administration va mettre tout son poids pour demander à l'Europe de ne pas appliquer ses lois. Eh ben, moi, je suis désolé, je ne vis pas dans le 51e État américain. Les élections américaines ne changent pas les lois en Europe. Et je pense que justement, ça peut être un moment fondateur pour l'Europe. Mais je vois bien la peur qui habite tout le monde. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on n'est pas sans armes.
Ou...
On est encore le premier marché du monde. Et il ne peut pas nous traiter comme un paillasson de la même
est-ce
manière que les Chinois
ne peuvent
pas éradiquer.
Est-ce que ce sont des réflexes nationaux où certains États se disent bah, on a intérêt à négocier avec les États-Unis et puis l'Europe, on s'en fiche. C'est quoi le moment pour l'Europe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un vrai risque de dilution ou il y a un risque de ou une chance de sursaut au contraire?
Il y a les deux. Et si on ne sursaute pas, si on ne se réveille pas, eh bien oui, il y aura la dilution. Il y a deux immenses tests là, qui nous sont posés par l'administration américaine. Le premier, c'est le Digital Services Act. Est-ce que nous sommes capables de faire appliquer nos lois, même quand ça génère une tension avec une administration américaine? Ça, c'est la première chose. Et nous ne sommes pas le 51e État des États-Unis, il faudra le répéter 50 000 fois. Deuxième chose, c'est la question de l'Ukraine. Parce qu'on est face à une guerre qui vise directement les Européens, qui vise directement l'architecture de sécurité en Europe, et que si l'administration Trump précipite un deal avec Poutine pour en gros se partager le gâteau sans que les Européens soient à la table, sans que les Ukrainiens n'aient leur mot à dire, eh bien nous sommes face à une perspective...
C'est une hypothèse, ça, ou...
C'est une hypothèse sur laquelle nous sommes obligés de travailler. Moi, je veux dire, pendant toute la campagne des Européennes, j'ai passé mon temps à dire, il faut se préparer au fait que Donald Trump gagne les élections le 5 novembre et qu'on sera face à un choix existentiel. À ce moment-là, on m'a dit, un, il va pas gagner les élections, et deux, vous allez voir, parce qu'en 2016, ça s'est mieux passé que prévu, il va se rationaliser, ça. Depuis qu'il a gagné les élections, il se radicalise. Il veut annexer le Groenland. Il diffuse des images du Canada comme étant partie des États-Unis. Il se confronte avec la première ministre du Danemark et il menace le Danemark d'une guerre commerciale si le Danemark ne cède pas le Groenland. On a son numéro 2 qui attaque les gouvernements européens progressistes les uns après les autres. Et il faut comprendre une chose, ce que Donald Trump et Elon Musk sont en train de préparer, et la manière dont ils le conçoivent, c'est qu'ils pensent qu'il y a une grande guerre civile culturelle au sein de l'Occident en général, pas simplement de l'Europe. Et il y a un tweet de Musk qui avait été vraiment significatif. Il dit, en 2016, ce qui s'est passé, c'est qu'on a éradiqué le virus woke, parce que c'est comme ça qu'il parle, aux États-Unis, mais on l'a laissé en Europe. Et du coup, il est revenu et il nous a défait. Et bien, cette fois-ci, il faudra aller jusqu'au bout. Ce n'est pas la révolution dans un pays, c'est la contre-révolution dans plein de pays, tous les pays. Eh bien, il faudra l'éradiquer en Europe. Mais nous, nous devons résister. Ce n'est pas les électeurs du Michigan, de Floride ou du Minnesota qui vont décider des lois et de l'atmosphère politique dans les États européens.
Pour résister,
si pour... Les sont invincibles. Attendez, pardon, je n'avais pas entendu vous. Elle se sent invincible, Ursula von der Leyen ? Vous avez le sentiment c'est que...
Non,
j'ai
l'impression
qu'elle
pense que...
fait ce qu'elle veut, qu'elle avance.
Je pense que oui, il y a des faiblesses des États membres. Ensuite, elle se sent les mains libres, puisque les poids lourds de l'ancienne commission ont été écartés. Et donc, il faut juste lui rappeler que elle doit compter sur nous.
Et
qu'au Parlement, si jamais elle a une attitude qui est trop souple et trop influencée par Giorgia Meloni, qui elle-même est proche de Tusk,
Tusk
est du bon côté de la barrière de ce côté, le premier ministre polonais sur lequel il faut s'appuyer, elle aura affaire à nous.
Finissez.
Parce que, non, mais allez-y.
Moi, je voulais revenir sur juste ce qu'on disait juste avant. Pour résister à Musk et à Trump, pour s'y opposer, est-ce qu'il faut quitter Twitter ? Est-ce qu'il faut quitter X ? Puisque c'est ce que vous envisagez de faire demain.
Il faut d'abord appliquer nos lois. Et considérer ces réseaux comme des espaces publics qui doivent répondre à des lois. Parce qu'en fait, le vertige qui nous habite aujourd'hui, c'est que ces espaces publics qui font notre débat public sont en réalité des propriétés privées. Donc ça ne peut pas être des propriétés privées pures. Deuxième chose, il faut, je pense, organiser notre départ, de X.
Ça veut dire quoi,
comme moi, j'ai quitté TikTok avant la campagne électorale parce que c'était devenu évident que c'était un instrument d'ingérence du Parti communiste chinois dans nos démocraties visant à les déstabiliser. Tous les éléments qu'on avait concluaient à ça. Face aux offensives de Musk contre nos démocraties, il faut organiser notre départ. Ce qui ne veut pas dire laisser le champ libre. Donc, ça, à mon avis, c'est pas on part à 1000 le 20 janvier, ça suffira pas. Il faut qu'on amène nos communautés à quitter ce réseau, à se rabattre sur Blue Sky ou Mastodon. Mastodon, c'est un réseau européen. Et à finalement faire en sorte qu'il y ait un coût pour Elon Musk à notre départ.
C'est-à-dire qu'il faut partir en commun. C'est-à-dire ce que dit François Hollande, il faut organiser.
Et là, il y a par exemple le CNRS qui a produit des plateformes de portabilité de ces communautés pour qu'on puisse ensuite les transférer sur d'autres réseaux. Eh bien, cela, il faut le construire. Donc, moi, je pense que ce qu'il nous faudrait, c'est qu'on ait une deadline commune, un temps où on dit, pendant 2 mois, on travaille à ça.
D'accord.
Et on quitte en masse ce réseau
le
et on va y travailler. Et
donc, vous, l'argument, c'est de ne pas laisser au fond.
J'entends tout à fait. C'est une question
extrêmement
compliquée.
Le réseau social aux extrêmes.
J'ai eu des grands débats là-dessus. Le fait est qu'aujourd'hui, X pose une question particulière parce que on a un propriétaire de X qui va être numéro 2 de l'administration américaine et qui utilise son réseau pour mener cette guerre civile au sein culturel et politique au sein de l'Occident. Et donc, rester, c'est en gros nourrir sa puissance. Et donc, c'est un dilemme. Moi, j'entends tout à fait. J'ai eu la discussion avec Thierry Breton, par exemple, qui dit l'inverse, qui dit il ne faut pas partir parce que je ne l'en laisserai pas. Moi, je ne pense pas là avoir une raison à 1000% et ce n'est pas une affaire religieuse et on peut tout à fait défendre le point de vue inverse.
Et donc, vous dites partir en communauté, mais moi, je pense qu'il faut c'est-à-dire que vous ne quittez pas X finalement
si,
demain,
si, moi, je vais dire dans quelques semaines, quelques mois, on aura un départ. Et on invite le maximum de gens à s'inscrire déjà sur les autres plateformes. C'est vu avec les architectes de la campagne Eloquit X. Et je pense que c'est la démarche la plus rationnelle.
Merci, Raphaël Glucksmann. Vous restez avec nous. C'est le moment d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécart.
Bonjour Amy Green.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Questions politiques. Vous êtes franco-américaine, spécialiste de la politique des États-Unis. Vous enseignez à Sciences Po Paris et vous avez publié juste avant l'élection présidentielle américaine « L'Amérique face à ses fractures » aux éditions Talendier. On va donc continuer à parler des États-Unis. À la veille, bien sûr, de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, il deviendra officiellement le 47e président de son pays demain à midi. Heure de Washington après avoir prêté serment sous la rotonde donc du Capitole. Alors on l'a dit, depuis 2 mois et demi, il est sur tous les fronts, Donald Trump, le Proche-Orient, l'Ukraine, le Groenland. Quel regard portent les Américains aujourd'hui sur leur nouveau président ? Je ne parle pas de ses partisans, bien sûr, mais globalement, les Américains, ils le regardent comment 2 mois et demi après ?
Alors, l'opinion publique américaine est toujours très divisée autour de la personne de Donald Trump. À peu près la moitié des Américains l'apprécient plus ou moins et l'autre moitié pas du tout. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que l'opinion publique néanmoins soutient assez largement ses propositions politiques. Mm-hmm. Donc, même si l'homme peut diviser, il y a une forme de consensus qui se construit autour des besoins politiques qu'il va proposer. Ce qui est assez intéressant aussi dans cette dynamique de prise de position de Donald Trump, on avait vu il y a 4 ans, il y a eu une forme de résistance de la gauche qui a coalescé justement en opposition à cette présidence-là. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus calme, c'est presque muet. On voit une forme de réaction de la gauche qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus calme. En tout cas, il y a une résistance qui ne se constitue pas de la même façon qu'il y a 8 ans.
Mais ça veut dire que son style ne dérange plus, ce style efficace, rapide, autoritaire. Ça séduit.
Ça séduit une certaine partie de l'Amérique, effectivement. Je pense que tout le monde à peu près a un avis sur cette personnalité politique. Mm-hmm. Mais il est vrai qu'à force de l'usage, à force de voir un Donald Trump qui transforme véritablement la façon de faire de la politique aux États-Unis, il y a une forme d'insensibilité croissante dans cette manière de faire. Donc en fait, le choquant ne l'est plus. Les anciennes normes, les règles de la politique ne le sont plus applicables. Et en ça, en effet, il avait vraiment véritablement changer la façon de concevoir et de mener la politique aux États-Unis.
Mais même les démocrates ont abandonné, où il n'y a plus de démocrates, où il n'y a plus rien.
Non, il y a des démocrates, mais il y a une forme de prise de conscience de la totalité de l'échec. C'est-à-dire que là, j'argumente que l'échec des démocrates n'était pas si important que ça. Il y a des signes pour la gauche. Typiquement, la perte du vote populaire ne tient qu'à 1%. La perte du Congrès ne tient qu'à quelques sièges. Donc, il y a des signes d'espoir pour cette gauche-là. Mais néanmoins, il y a une forme de prise de conscience qu'il faut à la fois se rendre compte des raisons de l'échec. Et puis, pour certains élus démocrates, ils se disent, bon, il va falloir composer avec le trumpisme. Et donc, sur certains sujets, il va falloir peut-être qu'on cherche des ponts pour travailler ensemble.
Alors, c'est fascinant quand même de voir la différence entre la première investiture il y a 8 ans et puis ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 8 ans, Donald Trump président, on le moquait, on le vilipendait, on ne l'écoutait pas. Là, aujourd'hui, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est l'élite politique, l'élite économique, l'élite technologique, j'ai envie de dire, mange dans sa main, c'est-à-dire veut faire partie de la cour de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, c'est fascinant. Il y avait un certain nombre de fêtes, de galas qui ont eu lieu hier soir à Washington autour du futur président. Mm-hmm. Et là, dans ces pièces-là, on va retrouver Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Musk et autres. Donc c'est vrai que ce ralliement de la Silicon Valley autour de Donald Trump, notamment pour les raisons économiques, des intérêts économiques, est assez fascinant, puisque cela représente une véritable rupture. Le fait que l'inauguration aura lieu dans le Rotunda, donc à l'intérieur, parce qu'il va faire extrêmement froid à Washington, c'est quelque chose qui est assez inédit. Mmh. Et cela rend justement ce moment de l'investiture encore plus rare. Mmh. Et donc, il y a une forme de concurrence assez importante pour avoir une place assise autour du futur président. Donc, en effet, il y a une forme d'acceptation et envie de travailler, de faire des opportunités.
Ce qui a joué aussi, c'est la façon dont il a été élu, c'est-à-dire l'élection du deuxième mandat est absolument incontestable. Et je pense que c'est ça aussi qui change le regard, parce que les gens se disent, ben voilà, c'est difficile de contester qu'il y a un appui.
Mais absolument. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, ce n'est plus un accident. Voilà. Ce n'est pas un bémol dans l'histoire. Ça, d'autant plus qu'il a gagné dans les villes qui ont voté démocrate, parmi ceux qui ont voté le plus pour Joe Biden. Chez les Noirs, chez les Hispaniques, pas majoritairement, mais ils creusent. Et donc, effectivement, cela rend de lui une force politique.
Et ça, pour la gauche,
différente.
Je trouve que c'est un challenge aussi terrible. Hein.
C'est un challenge immense pour la gauche. Et le fait que, finalement, les classes ouvrières qui étaient censées être vraiment le pilier du Parti démocrate et basculer, c'est une leçon immense. L'autre leçon, pour tous nos commentateurs, c'est qu'il faut arrêter de croire que le triomphe des populistes d'extrême droite, c'est des parenthèses de l'histoire ou finalement des soubresauts irrationnels. Non, on est face à une tempête immense, à une lame de fond. Et moi, je vais vous dire, ça m'a vraiment marqué. Vous prenez Zuckerberg. En 2017,
le patron
de Meta et donc de Facebook, en 2017, il fait une longue lettre où il parle des origines étrangères de sa famille, où il parle des origines étrangères de sa femme, où il explique qu'on est une nation, l'Amérique, un melting pot et qu'il va falloir le défendre contre Donald Trump. Et aujourd'hui, il épouse la vague. Pourquoi ? Parce qu'il sent que cette fois-ci, c'est une lame de fond. C'est une lame de fond et c'est une lame de fond en Europe autant qu'aux États-Unis. Et il faut qu'on prenne la mesure. J'ai l'impression qu'on a toujours la tentation de l'autruche en se disant « Bon, si on fait rien, qu'on met la tête dans le sable, ça va passer. » Non.
Laissez répondre, Amy Green.
Oui, et intéressant pour rebondir sur le point de Meta et Zuckerberg. Effectivement, il délocalise une grande partie des équipes de la Californie jusqu'au Texas parce qu'il veut éviter l'accusation d'un biais. Donc, c'est très intéressant ce choix aussi, même de réorienter le centre de gravité de ce mastodon technologique vers le Texas.
Alors, il y a une autre chose que je trouve absolument fascinante, c'est évidemment les invités. Demain, à cette investiture de Donald Trump, je ne vais pas toutes les citer, mais je vais en donner quelques-unes parce que ça donne quand même la mesure. On a l'italienne Giorgia Meloni, on a le hongrois Viktor Orban, on a Javier Milei, le président argentin. On n'oublie pas Éric Zemmour, on n'oublie pas Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que ça choque, ça, les Américains ?
Pour l'instant, ça ne choque pas forcément les Américains. C'est vrai qu'on en parle peut-être beaucoup plus à l'extérieur. C'est vrai que c'est la première inauguration américaine où un président, un futur président des États-Unis, convoque ou convie des dirigeants étrangers. Donc c'est en cela déjà une rupture. Mm-hmm. Mais quand on va regarder les affinités idéologiques, on va constater l'absence de dirigeants européens comme un Emmanuel Macron, comme même un Van der Leyen. Et donc, en effet, on voit la forme de soutien idéologique. Et puis, par ailleurs, ce n'est pas nouveau. Il y a des membres, des conseillers, des anciens conseillers de Donald Trump qui ont déjà fait des pas en Europe. Je pense à Steve Bannon qui fait son retour, entre autres. Donc, cette proximité-là n'en est en rien un secret. Et même là, c'est vraiment pour la première fois, devant les yeux de tout le monde entier, complètement assumé.
Mais donc, les Américains assument aussi d'entrer dans une ère, je ne sais pas comment on peut la qualifier, de national, capitaliste, autoritaire. C'est ça, aujourd'hui, les États-Unis ?
Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, mon livre parle beaucoup de fractures et c'est vrai que cette élection-là nous fait plusieurs enseignements sur cette question de fracture et je retiens vraiment la fracture économique, la préoccupation économique et ce sentiment de menace des migrants clandestins parce que c'est vrai que les sujets économiques restent véritablement la préoccupation centrale pour les Américains maintenant, les questions de sécurité liées à la frontière pour d'autres Américains, mais la question de faire nation, de projet national ne se pose pas pour le moment. Parce qu'en effet, il y a d'autres préoccupations immédiates qui saisissent les électeurs et pour l'instant, ce n'est pas une réflexion qui est partagée largement au sein de la société.
Dernière question. Pardon, bon, Nathalie, je vous en prie, avec plaisir.
Autoritaire leur faisait peur. Il y a eu un sondage qui disait en Europe que chez les jeunes, après tout, c'était peut-être un mal nécessaire pour être efficace. Est-ce que le côté autoritaire de Trump, le côté de s'asseoir sur la justice, sur un certain nombre de principes, est-ce que ça peut faire peur aux États-Unis?
Ça pourrait faire peur si ça va trop loin. C'est-à-dire que
pour l'instant,
il n'y a pas trop de vagues. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que d'ici 2 ans, il y a les élections de mi-mandat. Et donc, les électeurs, généralement, qui sanctionnent le parti au pouvoir, d'ici là, ils vont regarder très attentivement ce que fait Donald Trump. Typiquement, s'il y a une politique migratoire qui cherche à déporter en masse autant de migrants par des techniques, des tactiques brutales, ça pourrait heurter à l'opinion publique. Qui pourrait se dire, bon, OK, on est d'accord pour la question sécuritaire, mais là, ça rompt avec nos valeurs. Donc, il va falloir qu'on voit avec la mise en place de cette politique et la manière dont l'opinion publique réagit.
En 15 secondes, il a changé Donald Trump ou c'est le même ?
Je pense qu'il durcit, je pense qu'un Donald Trump c'est à peu près le même, mais qui se sent encore plus investi du pouvoir, encore plus investi de la confiance des électeurs.
Merci à tous les deux. Merci. Amy Green. Je rappelle le titre de votre livre, L'Amérique face à ses fractures. C'est sorti aux éditions Talendier. Merci à vous, Raphaël Glucksmann.
Merci à vous.
D'être venu sur le plateau de Questions Politiques. Un grand merci à toute l'équipe également, Fabienne Lemoyle à la rédaction en chef et à Maury Baucher pour la programmation. Très belle fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.